playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes et à tous. Mon invité dans cette émission, c'est Soigny Elzingre, batteuse au sein du trio Junior depuis 2015. Elle s'est installée pour la première fois sur les sièges derrière les fûts il y a 20 ans, un âge de raison pour lequel elle n'a perdu ni sa fougue, ni son esprit d'aventure. Et au couloir feutré du conservatoire, elle a préféré emprunter le chemin d'une école plutôt buissonnière. Et parce que la musique se pense autant qu'elle se joue, on lui doit aussi le livre « Batteuse, éloge d'un instrument rock'n'roll » paru chez Frémo Associés en décembre 2025. Un ouvrage nourri par l'expérience, l'écoute, la pratique et le questionnement, peut-on lire dans la préface rédigée par son éditeur Patrick Frémo. Elle est à mes côtés ce soir pour retracer son parcours d'artiste et de femme, parler de ses différents projets et prendre en charge la programmation musicale. Salut Soigny, un grand merci d'avoir dit oui à ce micro tendu.
Salut.
Alors ta rencontre avec cet instrument, la batterie, elle s'est faite quand et comment ?
J'avais quoi, 17 ans et c'était sur une brocante avec mon papa. En fait, mon père est musicien, il fait du piano depuis très 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 longtemps, du clavier. Et après, j'ai fait donc, il y avait un piano au centre du salon, donc j'ai fait un peu de piano avec mon oncle qui m'a appris un peu à faire ça. Mais ça m'intéressait un peu, mais pas tant que ça. Et un jour, on a fait une brocante avec mon père, parce qu'on aime bien les vieux machins, on aime bien le vieux mobilier, tout ça, donc faire les brocantes et tout. Et on tombe sur une batterie et je dis à mon père, bah vas-y viens, on l'achète. C'était 200 francs. Et il me dit, bah ok, vas-y, je mets 100 francs, tu mets 100 francs, on l'achète. Et donc on s'est retrouvé avec une batterie au milieu du salon. Et c'était pas du tout prévu. Moi, j'étais partie pour faire des études, enfin, je faisais des études d'histoire. Je voulais être prof d'histoire, histoire de l'art peut-être, tout ça. Et finalement, donc, je me suis retrouvée à faire de la batterie. Et mon père a joué 5 minutes dessus, et je crois que ça l'a saoulé, il a arrêté. Et moi, j'ai commencé comme ça, et après, j'ai pas arrêté.
Ton papa a été disquaire. Qu'est-ce que ta culture musicale doit à ton environnement familial ?
De toute façon, je remercie vraiment mon père, parce que mine de rien, lui a toujours écouté de la musique. Et là même, d'ailleurs, encore quand je vais chez mes parents, en fait, mon père écoute de la musique H24. Donc j'arrive chez eux, et il y a de la musique qui tourne. On allait en vacances dans la voiture, il y avait de la musique... il répétait le vendredi soir avec ses potes, donc moi j'y allais, j'étais petite, il y avait de la musique. En fait, j'ai toujours entendu de la musique. Mon oncle aussi était musicien, il travaillait à la FNAC, donc j'allais le voir à la FNAC, il me faisait écouter des trucs. Donc c'est vrai que, en fait, il n'y a pas un moment où il n'y avait pas de musique chez moi, et même si ce n'était pas dans la pratique, effectivement, bah, mon père il écoute autant. Après, il écoutait beaucoup de choses anciennes. Des années 60-70, et moi j'écoutais donc les musiques de ma génération, donc des années 90-2000, et voilà, donc lui il m'a fait ma culture un peu d'avant 1980, et maintenant encore, lui il aime bien, il va à la médiathèque, il prend des trucs au hasard, il me dit tiens écoute ça, c'est super, ou alors oh, j'ai écouté ça, des fois il me dit des trucs genre oh, j'ai écouté Tool, ou j'ai pris un album de Mastodon, c'est super. Ah oui, d'accord. Donc il continue encore aujourd'hui à découvrir des choses et à me faire découvrir. Et moi, quand j'arrive avec un album qu'il ne connaît pas, je suis un peu fière. Genre, tu connais ça ? Non. Tiens, bah écoute, c'est super. Voilà. Donc on continue à partager des choses encore.
Il a quel âge, son papa ?
71.
Alors les parents ont souvent la larme à l'œil hein, quand ils apprennent que leur enfant veut faire de la batterie. C'est un peu comme si mes fils de 3 et 6 ans choisissaient de faire du poney. Ça implique pas mal de contraintes. Comment ils ont réagi les tiens quand tu as décidé de choisir cet instrument ?
Mon père, ça lui a fait plaisir quand il y a eu une batterie au milieu du salon. Ma mère s'en fout un peu. Enfin, elle est contente, quoi. C'était pas un truc... c'était pas une contrainte, vraiment. Et puis, en fait, il travaillait. Donc moi, je faisais de la batterie quand ils étaient pas là. Donc finalement, ils le voyaient pas trop. Et je crois que, ouais, ils étaient plutôt assez contents, assez fiers. Après, ma mère a toujours été là à tous mes concerts, et encore aujourd'hui, elle vient à tous mes concerts. Et mon père avait un rapport un peu plus distant, peut-être par rapport à sa propre histoire aussi avec la musique, probablement. Et du coup, il était plutôt à toujours me dire que c'était un loisir, que faire de la musique, c'est cool avec ses potes. Mais quand on parlait d'en faire un peu plus un métier... En plus, il était conseiller d'orientation à la mission locale. Donc lui, c'était son métier de trouver des métiers aux jeunes. Et il a toujours été assez, pas dur, mais un peu dans la réalité de la vie, à dire attention, parce que tel métier, ça nécessite telle chose, il y aura tel... enfin, un peu à me mettre en garde un petit peu contre... enfin, pour toutes les difficultés que je risque de rencontrer. Et du coup, forcément, j'étais un petit peu à me dire, bon, OK, c'est un loisir, les métiers de la musique, c'est pas forcément pour moi, ça, c'est un peu inaccessible. Et en fait, maintenant, je me rends compte que non, c'est très accessible. Mais lui, en fait, n'en savait rien non plus, parce que c'est des métiers qui sont multiples et qui sont assez inconnus du grand public. Et quand on n'est pas du tout là-dedans, qu'il n'y a personne qui fait de la musique de son métier, on a du mal à se rendre compte de ce que ça représente, de ce que c'est.
Ça a été précieux, cette posture de ton père par rapport à la pratique professionnelle en musique ?
Oui, je pense. Je pense parce que j'ai abordé le fait de pratiquer un instrument et de faire de la musique de manière très détendue. J'avais pas des parents qui étaient derrière moi à me dire « il faut absolument que tu passes tes examens de musique, il faut que tu te pratiques tous les jours, il faut que tu sois la meilleure, machin ». Et du coup, le résultat, c'est que j'ai toujours fait de la musique pour le plaisir, pour moi, pour mes potes, pour m'amuser. Et alors après, il y a aussi la contrepartie, c'est que je pensais vraiment pas pouvoir en vivre, je pouvais pas en faire mon métier, je pensais pas que ce serait possible. Mais j'ai toujours cette relation un petit peu détendue avec la musique, à me dire que c'est un métier, oui, mais c'est aussi quelque chose qui doit être fait pour le plaisir un peu quand même. Et ça, je pense que c'est bien aujourd'hui. Je suis contente d'avoir cette relation-là.
Alors, tu joues de manière professionnelle avec Junior. Ça s'est passé comment, cette rencontre avec eux ?
C'était un peu... c'était mal barré. C'était mal parti, vraiment. J'ai cru que j'allais pas du tout être prise dans Junior parce qu'on avait une heure d'audition. Et c'est grâce à Facebook que je les ai rencontrés. Donc, c'était en 2015. Facebook était un peu différent à l'époque. Et j'ai vu passer un message qui disait qu'ils cherchaient une batteuse. Et je les ai contactés. On a pris rendez-vous pour faire une heure de répète au Studio Bleu. Et en fait, je suis arrivée avec 45 minutes de retard. Et il n'y avait que Anna, donc, qui est la chanteuse et guitariste. On devait jouer juste toutes les deux. J'avais bossé trois morceaux. Et en fait, je suis arrivée avec 45 minutes de retard, donc elle était ultra saoulée. Je suis arrivée un peu genre, je suis vraiment désolée. Il restait un quart d'heure de répète. Et au final, on a fait, je crois que c'était même deux morceaux. On a joué les deux morceaux. Et Anna m'a dit, bon, bah, on va boire un café. J'ai dit, OK. Et en fait, on a passé 2 heures à parler et à boire du café. Et après, c'était parti, en fait. J'étais embauchée dans Junior. Donc, parce qu'on s'est tout de suite plu. On s'est tout de suite entendu. Et même finalement, musicalement, on a vraiment fait tourner les morceaux une fois. Et elle m'a regardé, elle m'a fait « Bon, allez, c'est bon ».
Il y a eu d'autres rencontres déterminantes dans ton parcours d'artiste ?
Il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu d'abord mon premier prof de piano, Guillaume Gilles. Ça a été le premier qui m'a dit que je pouvais le faire, que je pouvais devenir professionnelle dans la musique, que ce ne sera pas facile. Lui, il était aussi comme mon père, un peu à dire... Ça va être une route semée d'embûches, mais tu vas y arriver. Et il m'a dit, tu peux le faire. Il y a eu aussi un de mes profs de batterie, Mathieu Gramoli, qui m'a aidé vraiment à me professionnaliser. Il y a eu plusieurs rencontres comme ça qui... En fait, c'est des gens, je pense, à des moments qui vont avoir peut-être juste une phrase ou qui vont te dire un truc qui va t'aider, qui va t'ouvrir des portes à un moment où tu pensais que c'était un peu fermé, où t'étais un peu peut-être déprimé, où tu sais pas trop où aller dans la vie. Et il y a eu aussi une chanteuse qui s'appelle Alvina Lancel, avec qui j'ai joué pas mal, et son père est un bassiste qui a joué avec plein de gens. Il a été de très bons conseils. Il y a eu Julien Bitoun aussi, avec qui j'ai joué pas mal, et pareil, qui m'a aidé. À prendre confiance en moi, je pense aussi, parce que c'est aussi ça, de jouer avec des gens qui ont confiance en toi, qui te font confiance, qui te laissent un peu carte blanche, en te disant, bah, de toute façon, je sais que ça va être super, et avec qui tu partages des moments, évidemment, chouettes et des expériences. Et tous ces gens-là m'ont permis déjà aussi de me faire, de bosser mon instrument, d'avoir un répertoire assez, assez varié quand même. Parce qu'avec Julien, on a joué vraiment tout et n'importe quoi. Et avec beaucoup, beaucoup de gens. Et voilà, donc tout ça, ça participe à, bah, à construire une carrière, même si j'aime pas trop ce mot, mais quand même à construire, en tout cas de faire de l'expérience. Et améliorer mon jeu, améliorer ma façon d'accompagner les gens aussi, tout ça. Donc, je pense que ces rencontres, elles sont déterminantes quand même.
Et on va ouvrir cette programmation avec Junior, justement. Alors, t'as choisi le titre Que la nuit, extrait de l'album 1, 2, 3, que j'ai usé jusqu'à la corde avec mon amoureuse Camille. Qu'est-ce que t'aimerais nous en dire ?
Que la nuit, c'est vraiment mon morceau préféré de Junior, mais aussi parce que ça a été un super moment quand on l'a enregistré. On a enregistré avec Anna dans la même pièce, donc elle était à la guitare, et c'était un morceau, je pense, qui n'était pas encore vraiment très construit, et je comprenais rien. Vraiment, je comprenais pas ce morceau, je voyais pas où ça allait, la guitare était bizarre, et il fallait que, et en fait, on adore les slows avec Anna, on a vraiment cette passion pour les slows un peu vintage des années 60, 60, ouais, 50 même, un peu plus ancien. Et c'était ça l'idée, c'était de faire un slow, mais un slow qui aurait été dans la bande originale de E.T. Donc voilà, en fait, c'est mes deux passions réunies. C'est les slows et Ciel et Espace, quoi, en gros. Et du coup, avec Anna, on a joué ça, et elle me jouait son riff de guitare qui faisait gang, 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 gang. Et moi, j'étais là, je la suivais à la batterie, genre, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est un peu bizarre. Ok, on y va. Et je sais pas, on a fait quelques prises de ça. Et d'ailleurs, dans la prise qu'on a gardée, on sent... Moi, je sais que j'hésite parce que je sais pas où trop où je suis dans le morceau. Je sais pas s'il faut que je joue la ride ou le charlet parce que je sais pas si c'est un refrain, un couplet, j'en sais rien. Et en fait, on a gardé cette prise parce que finalement, elle est super... il se passe quelque chose. Et quand j'écoute ce morceau, bah, du coup, je me revois ce moment-là avec Anna qui était un super moment. Et le morceau, je le trouve juste extraordinaire. Moi, je me vois vraiment dans E.T. J'ai l'impression que c'est notre morceau qui fait la bande-son, donc j'adore.
Junior avec le titre Que la nuit, dans lequel on entend la batterie de Swen Yelzin, qui meuf s'accompagne le temps de l'émission que vous écoutez en ce moment même. Cette expérience avec Samy, donc Samy Hosta et Anna Jean, dont tu viens de parler tout à l'heure du groupe Junior, est-ce qu'elle a changé quelque chose dans ta manière de jouer, dans ton approche de l'instrument ?
Ah oui, complètement. Je pense. En fait, c'est pas que ça a changé ma manière de faire, c'est que ça m'a formé. Ça a formé ma manière de faire. Ça a construit ma manière de jouer. Et on s'est vraiment trouvé avec Junior parce que on a les mêmes références, on a les mêmes goûts. Il y a vraiment un truc de, on aime les mêmes choses et on discute tout autant de musique que de choses de la vie. Et on se retrouve beaucoup. Et du coup, je pense que j'ai trouvé là où j'étais vraiment bien dans ma manière de jouer grâce à eux, en fait. On a réussi à faire ce mix entre toute la musique des années 60 que j'ai énormément écoutée et des choses plus modernes aussi, parce que quand même on n'est pas dans ce truc de nostalgie du temps qu'on n'a pas connu, tu vois. Évidemment que j'aurais aimé vivre en 1962 et voir comment c'était, mais on est des enfants de notre époque à un moment, tu vois. C'est important aussi de vivre aujourd'hui dans notre époque, mais en fait ça m'a permis aussi d'assumer mon jeu de batterie qui est bizarre, que j'espère bizarre en fait, parce que vraiment pour moi c'est quelque chose qui est hyper important d'avoir une personnalité dans son jeu. Et j'ai quelqu'un il n'y a pas longtemps là, c'est rigolo parce que c'est une prof qui habite aux États-Unis et qui me parle sur Instagram et qui est très sympa et qui est fan de Junior, vraiment elle adore et elle fait de la batterie. Et l'autre jour elle me dit j'essaye de jouer sur les morceaux de Junior et je galère. Vraiment, j'ai du mal à te suivre. Et il y a encore quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, je faisais une masterclass à Bourg-en-Bresse, j'espère que je le dis bien, et il me dit, putain, tes parties de batterie, elles sont vraiment originales, elles sont bizarres. Et en fait, ça me fait hyper plaisir, pour moi, c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse me faire, parce que c'est ma bizarrerie que j'arrive à mettre dans mes parties de batterie, et qui en plus se trouve, qui colle au groupe dans lequel je joue. Donc pour moi, c'est un peu. J'ai réussi mon. C'est 100% de. C'est bon quoi, j'ai réussi mon truc, mon coup. Et Junior me permet de m'exprimer dans ma bizarrerie, dans notre bizarrerie. Et c'est vraiment le seul groupe dans lequel j'arrive à voir ce truc-là. Et après, avec Julien, ça le faisait aussi un peu, parce que Julien, il a ce truc de... Il me laissait aussi assez libre dans mon expression batteristique. Mais voilà, pour moi, c'est aujourd'hui... j'arrive à assumer mon jeu de batterie, en partie grâce à Junior.
C'est rare de trouver ses copains de groupe avec Junior. Tu les as trouvés, hein, je crois, les bons partenaires avec eux.
Oui. Clairement, c'est des gens... Je suis vraiment, c'est très rare en fait, je pense, d'arriver à trouver ça dans la vie, mais c'est dans la vie de manière générale, pour trouver son compagnon ou sa compagne de route, ses amis. Et les gens avec qui tu peux t'exprimer vraiment de manière libre, parler de tout, vivre. Parce que quand on part en tournée à l'autre bout de la terre, on est parti en Australie pendant 10 jours, bah, t'as quand même intérêt à t'entendre avec ces gens-là, parce que c'est pas si évident que ça. Et oui, je pense que... Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. Là, on est en train d'enregistrer notre nouvel album. Et j'espère vraiment que quand on aura 80 ans, on continuera de faire des BO bizarres de films bizarres qui n'existent pas, et de faire des tournées assis et fatigués. Et je vois pas pourquoi on le ferait pas, en fait. Je pense que c'est obligé, on continuera.
Alors on enchaîne en musique avec un autre de tes projets, celui que tu partages avec Julien Bitoun, dont tu parlais tout à l'heure, et qui s'appelle Julien Bitoun and the Angels. Comme avec Junior, tu joues avec lui dans une formule en trio. C'est la configuration idéale pour toi?
Oui, vraiment. Et c'est rigolo parce que hier, j'étais en studio avec un autre groupe qui s'appelle Placide. Et du coup, on était quatre, et là, on est passé à trois. Et en fait, à chaque fois, j'en reparlais encore hier et je me disais, mais en fait, le trio, pour moi, c'est vraiment le combo gagnant, quoi. Alors après, évidemment, ça a ses limites. Moi, j'adore aussi la musique un peu plus orchestrée, avec un peu plus de, genre, le piano. Enfin, moi, j'adore le piano, c'est un de mes instruments préférés. Les synthés, tout ça. Et quand on est en trio, en guitare, basse, batterie, bon, bah, évidemment que on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais je trouve que aussi... Justement, la contrainte est aussi une source de jolies choses, et ça oblige à être un peu plus... On est à poil, en fait. Quand t'es en guitare, basse, batterie, tu sais que chaque instrument a vraiment sa place, a vraiment... Faut que t'aies des trucs à raconter, faut que t'aies des choses à dire dans ton instrument, faut que tu t'entendes hyper bien avec les personnes avec qui tu joues, et en même temps, il y a un vide... qui pour moi est assez agréable, parce que j'aime bien aussi qu'on ne remplisse pas l'espace tout le temps, et qu'il y ait trois guitares, deux claviers, trois chanteurs et des cuivres. C'est super aussi, mais j'aime bien quand il y a un fil sur lequel on est, qu'on ne sait pas trop où on va, que c'est tendu, que c'est risqué, qui est un truc un peu, tu te planques pas derrière voilà, des sections cuivre. Et enfin, je dis pas que les gens se planquent, hein, c'est très difficile aussi de jouer à 12 sur scène, mais cette fragilité en fait du trio, moi elle me fascine un peu, et j'aime beaucoup ça. Et donc en fait là je me rends compte que finalement j'ai que des trios, bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça.
Angel of Death, c'est la chanson de Julien Bitoun and the Angels que tu as choisi de nous faire écouter et dont je te laisse nous dire quelques mots.
Cette chanson, donc, c'est une reprise de Hank Williams. On a fait un EP en hommage à Hank Williams, que moi je ne connaissais pas du tout, Hank Williams. Et il a une vie un peu horrible. Je crois qu'il est mort d'alcoolisme, seul dans sa voiture, il me semble. Et Julien a quand même cette faculté-là de nous ressortir des choses un peu obscures, des groupes et des artistes un peu obscurs qu'on a oubliés. Et on a enregistré donc un EP au studio 180 chez Arnaud Bascugnana, sur bande, à trois, en live. Donc encore une fois, à poil, pareil, avec très peu de répètes, et essayer de faire un peu revivre ces chansons assez un peu deep, assez extraordinaires. Et Angel of Death, c'est vraiment un morceau, je le trouve hyper, hyper dark. Et c'était aussi un très bon moment, un très bon souvenir en studio avec Julien, où pareil, il s'est passé un truc à ce moment-là quand on a enregistré avec Paul Iron à la basse. J'aime beaucoup ce morceau, voilà. C'est un bon souvenir. Faut un peu que, je crois que les morceaux, faut qu'ils soient aussi, associés à des bons souvenirs. Donc, Angel of Death.
When lights all grow dim and the dark shadows creep and the ones who loved you are gathered to weep. Can you truthfully say with your dying breath You're ready to meet the angel of death. In the great book of John, you're warned of the day when you'll be laid beneath the cold clay.
Angel of Death.
De Julien Bitou, None of the Angels. Alors, projet en trio que Soigny Elzingre mène à la baguette sur l'autoroute du rythme. Elle est la batteuse du groupe et prête sa voix. Elle est aussi l'invitée de cette émission et j'en suis très heureux. Il y a un groove profond dans ce groupe. Ce serait quoi ta définition du groove?
C'est une définition assez complexe. J'ai un peu réfléchi justement dans mon bouquin parce que ça fait partie vraiment des gros mots, quoi, des grands mots de la musique, le groove. Et c'est un peu mystérieux quand même. Il y a des définitions un peu obscures également, il faut que ça nous fait bouger la tête, c'est quelque chose qui nous fait danser, tout ça. Alors oui, certes, ça nous fait danser. Mais pour moi, le groove, c'est quelque chose de très particulier et de très individuel. Parce que vraiment, on n'a tous pas du tout la même relation. Il y a quelqu'un qui va dire « tiens, ça, je trouve ça groove ». Et puis la personne d'à côté va dire « non, pas moi ». Et il y a des choses sur lesquelles on s'accorde à dire que certaines choses groove, tout ça, que certaines musiques groove, etc. OK. Mais moi, je trouve que c'est super mystérieux, en fait. Comment ça se joue dans l'écart entre des notes? Pourquoi quand on enregistre de la batterie, en plus, ça fait vraiment ça. Moi, j'aime bien enregistrer de A à Z un morceau. Donc, on va dire, allez, c'est 4 minutes. T'enregistres 4 minutes de ton morceau. Sur ces 4 minutes, il va y avoir des fois, parfois, 8 mesures, 4 mesures, 2 mesures, où tu te dis, putain, ah là, il se passe un truc, genre d'un coup, dans ton corps, il y a un mouvement qui se passe, tu bouges ta tête, tu ressens quelque chose, et puis après, pouf, tu le perds. Et il y a des gens qui arrivent à le faire tenir 4 minutes. Pour moi, c'est un peu ça l'objectif d'une vie quand t'es batteur, c'est d'arriver à tenir un groove, d'arriver à tenir un rythme qui te procure une sensation le plus longtemps possible. En fait, c'est un peu ça l'idée. Je crois que c'est ça, en fait. Le groove, ça doit être lié à une sensation, à un sentiment de bien-être, à quelque chose qui te fait oublier un petit peu, qui d'un coup ton cerveau, il switch, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est très, très dur à trouver et très, très dur à tenir. Tu peux le trouver une mesure, deux mesures. Mais vraiment, l'avoir 4 minutes, on n'est pas des machines. Et justement, cette histoire de machine avec aussi la manière dont on enregistre aujourd'hui, l'IA et tout ça, c'est des questions... qui se pose, comment on fait, est-ce que la machine elle peut faire groover, et il y a des machines et il y a des morceaux qui sont enregistrés avec des machines et qui groovent.
J'ouvre les guillemets, l'instinct et le choix subjectif sont les seuls garants de la valeur d'une œuvre. Ça, c'est une citation d'Yanis Xenakis qu'on retrouve dans ton livre. Quelle part d'instinct toi tu laisses dans ta manière de jouer?
Ouais, cette phrase de Yanis Xenakis, elle m'a beaucoup plu, parce que pour moi c'est ça, il y a un truc de l'instinct. Ça fait peut-être... en fait, je crois que l'instinct, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de ta personnalité, de ta culture, de tes angoisses aussi, de tes questionnements. C'est des réponses à des choses qui se passent. Et quand tu es en studio avec des gens, c'est un peu ça, l'instinct. C'est genre, j'entends quelque chose, je réagis. Comment je réagis? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais répondre à cette ligne de guitare, à cette ligne de piano? Qu'est-ce que ça m'inspire? Et tout ça, c'est sur le moment. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi pas trop répéter. Et j'aime bien aller en studio sans avoir trop une idée de ce qu'on va jouer. Parce que j'ai l'impression que c'est finalement une réponse assez honnête et assez un peu vraie. Je sais pas, il y a une espèce de vérité de l'instant. Qui est belle et qui est intéressante. Et j'ai l'impression souvent aussi en studio, que je parle beaucoup de studio parce que j'en fais aussi pas mal en ce moment, et j'ai l'impression que plus on le joue, plus on va intellectualiser ce qu'on est en train de faire, plus on va réfléchir et plus on va perdre justement cette fraîcheur un petit peu instinctive qu'on avait au début. Alors pour moi ça marche, il y a des gens pour qui ça marche pas, ils vont avoir besoin de répéter justement pour se libérer et pour s'exprimer. Moi, j'ai l'impression toujours que c'est la première prise qui est la meilleure, quoi. Il y a un truc de... Il y a un truc de... Je réfléchis pas et je fais ce que la musique m'inspire sur le moment. Voilà, pour moi, ça marche comme ça. Après, c'est vraiment très, très personnel aussi.
Toi, tu as écrit le livre Batteuse, sous-titré Pop Culture, Jazz, Musique électronique, Éloge d'un instrument rock'n'roll. Comment tu as abordé l'écriture de ce livre ?
C'était d'abord quelque chose pour moi, pour mes réflexions, pour tenter de répondre à mes questions, à mes questionnements. Pendant le Covid, hein, évidemment, on s'est tous arrêtés, on a fait des trucs bizarres, on a réfléchi un peu, attends, pourquoi je fais ça ? Et surtout, la musique, j'avais fait 5 ans de tournée, de 2015 en gros à 2020, et là on s'est arrêté et on a cru un peu tout ce qu'on n'allait pas pouvoir repartir. Et je me suis posée en me disant, qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre que j'ai fait pendant 5 ans ? C'est quoi faire de la musique ? Ça veut dire quoi en fait aujourd'hui, en 2020 donc qu'est-ce que ça veut dire ? Faire de la batterie, c'est un instrument un peu bizarre. Pourquoi je fais ça ? Je me suis posé plein de questions parce que je suis très sceptique dans la vie. Avec Junior, on a ce concept du petit sceptique qu'on aime beaucoup. Et c'est vraiment tout remettre en question tout le temps, se poser plein de questions. Dire mais pourquoi on fait ça ? Attends, mais ça n'a pas de sens d'aller à l'autre bout du monde pour faire de la musique. C'est très bizarre, quoi. Et je me suis posé vraiment, puisqu'on a que ça à faire aussi... Je jouais à la console et je réfléchissais au sens de la vie. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, allez, vas-y, pose-toi un peu, écris. Puis écrire, c'est quelque chose que j'aime bien faire depuis très longtemps, mais que je me suis pas donné le temps de le faire. Et là, j'avais le temps, donc je l'ai fait. Et j'ai commencé à interroger des copains un peu batteurs aussi, des amis, voir un peu ce que c'était leur rapport à la batterie, leur rapport à la musique. Et j'ai commencé à écrire des choses. Je pensais vraiment pas que ça aurait la forme d'un livre, au final. Mais 5 ans plus tard, ça a fait ce livre. Et je trouve ça toujours un peu bizarre. Je me repose aussi des questions. Je suis très sceptique.
Qu'est-ce qui t'a apporté ce livre en tant que praticienne ?
Ce livre m'a permis vraiment de prendre un peu de recul et de savoir aussi ce que j'avais envie de faire, quelle musique j'avais envie de faire, avec qui j'avais envie de jouer, et de rencontrer des gens un peu qui sont pas du tout dans ce milieu-là et qui m'ont fait quand même avancer sur ma pratique, comme Jean-Philippe Usan, qui est un astrophysicien, qui est quand même musicien et qui a une réflexion sur le temps qui est très intéressante et avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Et Patrick Frémaux aussi, avec qui l'éditeur qui aussi donc édite des livres, mais aussi des CD, et aussi des livres sur des réflexions écologiques, sur aujourd'hui ce qu'on fait en tant qu'être humain sur la planète. Et ça m'a permis de remettre ma pratique instrumentale et mon métier au cœur d'un espace plus large. Et je trouve que vraiment, ça, c'est hyper important aujourd'hui de faire ça, de se dire qu'on est des citoyens d'un espace, d'une ville, d'un pays, d'un monde. Et vraiment, c'est quelque chose qui est, je pense, central aujourd'hui. Et on est obligé de se replacer dans un espace plus large. On ne peut plus juste faire notre petite life en se disant « ça suffit ». Enfin, je trouve que c'est hyper important de se poser des questions de pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça a comme impact sur la planète, sur l'espace dans lequel je suis. Et Patrick Frémaux a vraiment cette réflexion très large avec tous les livres qu'il édite. Et je trouve ça passionnant. Je trouve que c'est vraiment des questions qu'il faut se poser aujourd'hui.
Ton livre est hébergé chez Frémaux Associés. Hein. Tu parlais de Patrick Frémaux tout à l'heure, une enseigne qui a fait de la sauvegarde du patrimoine, une de ses spécialités. C'est un choix qui s'est fait comment, ça, de travailler avec eux ?
Ça a été un peu le hasard, parce qu'il se trouve que je connais bien Stéphanie Hackett, donc qui est une femme incroyable qui fait énormément de choses. Je ne peux pas la résumer à juste « elle fait ci » ou « elle fait ça ». Elle fait 1 000 milliards de choses. Et j'ai fait une story sur Instagram avec un livre de Frémaux. Parce que je fais des stories de livres, ça a un énorme intérêt, ça. Et Stéphanie répond à ma story et elle me dit « Mais tu sais que Patrick Frémaux, c'est mon meilleur ami ?» Et je dis à Stéphanie, je dis « Bah, tu sais que je suis en train d'écrire un bouquin ?» Et en fait, je vais chercher un éditeur. Je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, ce que j'écris. Et elle me dit, bah, vas-y, je te donne le mail de Patrick Frémaux et puis tu lui envoies. Et il se trouve que c'était un moment où donc c'était assez avancé quand même, mon livre. Et donc, j'avais deux projets de livres parce que j'en ai un deuxième qui est en route. Et comme un enfant, quoi, c'est vraiment, ouais, oui, j'en ai un petit deuxième. Il est tout jeune, il vient de naître. Et donc, du coup, j'envoie ce mail à Patrick Frémaux avec mes deux propositions de livres et il me répond tout de suite en me disant que ça l'intéresse. Donc voilà, c'était quand même complètement le hasard. Et il se trouve qu'il venait de sortir un livre sur la naissance de la batterie par Guillaume Nouaud, qui est extraordinaire aussi, super intéressant. Et en fait, bah, il me dit, voilà, moi j'écris j'édite des bouquins de gens qui sont très pointus sur le jazz et souvent un peu âgés. Et il m'a fait rire, il me dit, en gros, ça me fait plaisir d'avoir une femme qui parle de musique et qui est jeune. Donc comme je suis quand même à la moitié de ma vie, mais on ne dira pas vraiment mon âge, parce que je veux laisser une légende se faire. Et il m'a dit, ça fait plaisir d'avoir une jeune femme qui parle de batterie. Donc je tombais pile poil à un moment pour eux où c'était bien aussi, quoi.
Alors on poursuit en musique avec un autre de tes projets qui lui s'appelle Patin d'amour, et dans lequel tu officies à la guitare et au chant cette fois-ci. Tu as choisi le morceau Drôle de rêve, qu'est-ce que tu aimerais nous en dire ?
Alors, Patin d'amour, c'est un projet que j'ai monté il y a peut-être 2 ans. Enfin, là, ça n'existe plus aujourd'hui sous cette forme, mais c'est la première fois pour moi que j'écrivais des morceaux, que j'écrivais aussi des paroles. Et je suis assez fière, en fait, quand même, de ces morceaux. J'ai très envie aujourd'hui de refaire un petit peu de musique, de réécrire des choses. Donc je pense que je vais le faire, parce qu'à un moment, en fait, il faut faire. Quand on a envie de faire un truc, il faut le faire. Si ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Et voilà, et en fait, c'est de la musique donc, que je faisais avec Olivier Viadero, qui est aussi batteur. Et on a vraiment composé et écrit cette musique ensemble. On a tout fait de A à Z. Et j'ai beaucoup aimé cet exercice d'écrire des paroles. Moi, je fais la basse aussi, et d'écrire des lignes de basse. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ouais, je trouve que écrire, en fait, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de faire de plus en plus aujourd'hui. J'écris aussi, je fais des interviews pour Batterie Magazine depuis janvier. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et surtout, écrire en français. Voilà, je trouve que c'est un super exercice. J'ai vraiment envie de faire ça. Je pense que je vais faire ça. J'espère qu'à 80 ans, je continuerai de faire de la musique un peu chelou, avec des paroles cheloues et pour le plaisir, quoi. Ouais, je pense que c'est un truc de long terme.
J'ai fait un drôle de rêve qui revenait pas.
drôle de rêve du groupe Patin d'Amour pour cette émission en compagnie de Soigny Elzingre. C'était un drôle de rêve de devenir musicienne professionnelle. J'entends pas rêve, j'avais aucune chance d'y arriver et j'ai réussi à le faire.
Oui, 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 clairement, c'est un drôle de rêve. Je pensais pas du tout que je pourrais faire ça, mais en fait, je pensais même pas que ce métier existait vraiment. Tu sais, quand t'as 20 piges et que tu vois, je dirais pas en quelle année on est, tu vois des clips à la télé, tu vas voir des concerts au Zénith, tu vas voir des trucs un peu fat. Toi, tu vois Avril Lavigne et les Smashing Pumpkins, oui. Et tu te dis pas, en fait, que c'est un métier que toi, tu peux exercer. Tu dis c'est loin, et puis t'as l'impression que c'est pour d'autres gens qui sont forcément des stars, tu vois. Et un jour j'ai compris en fait qu'il y a aussi des groupes qui existent et qui vivent de leur musique sans être sans passer sur TF1, sans être super connu, que c'est une économie qui existe, qui est évidemment très précaire et qu'il l'est de plus en plus. Hein, on va pas se cacher. C'est quand même assez difficile comme métier, mais comme beaucoup, comme plein d'autres métiers. Et j'y connaissais rien sur l'intermittence. Tout ça, c'est un système extraordinaire qui permet quand même vraiment de vivre, de s'en sortir, d'avoir un salaire. Je pense que j'ai découvert avec le temps que ce métier de accompagnateur, accompagnatrice, sideman, sidewoman, comme on dit un peu plutôt en anglais, c'est un métier qui existe et qui est tout à fait accessible, même à des gens qui n'ont pas de diplôme, parce que c'est pareil, on a l'impression qu'il faut avoir absolument des diplômes de conservatoire, qu'il faut avoir passé des examens, machin. Mais non, en fait, c'est pas parce qu'on a... Ça veut rien dire, c'est vraiment là pour le coup. Mais c'est pareil, en fait, aujourd'hui, on peut avoir un boulot sans avoir le bac. Ben, c'est la même chose, on peut être musicien, musicienne, sans avoir un diplôme de conservatoire. Et ça, je pensais pas que c'était possible, et du coup, ça l'est. Donc c'est plutôt chouette.
Ça complète ton jeu de te mettre au chant et à la guitare, et plus généralement de t'installer à un autre poste que celui de batteuse.
Oui, oui, oui. Et je pense que c'est hyper important de pratiquer plusieurs instruments. Surtout quand t'es batteur-batteuse, parce qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'accord. Enfin, tu peux faire une note à la batterie, mais je pense que c'est important aussi d'avoir un peu, d'avoir un autre point de vue et effectivement d'être de l'autre côté de la batterie aussi pour se rendre compte un peu de ce que c'est que de jouer avec un batteur, de ce que t'attends d'un batteur, d'une batteuse. C'est important. Alors après, je dis ça aussi, c'est pareil, c'est important pour moi. Mais c'est pas une obligation. Mais la basse, par exemple, enfin vraiment, c'est, je trouve que c'est vraiment l'instrument qui complète le mieux la batterie. et parce que c'est rythmique, mais c'est aussi mélodique. Et le chant, parce que franchement, quand t'es derrière une batterie, t'es un peu planqué au fond de la scène, derrière tes cymbales et tout. Et quand tu te retrouves devant avec les gens qui te scrutent. Et que t'es là comme ça, à rien avoir dans les mains et avoir juste un micro devant toi, ben mine de rien, pareil, ça change un peu ton rapport à la musique et à la scène. Et je pense que c'est important de un jour se retrouver à cette place quand t'es musicien, parce que vraiment tu te dis ah en fait ça fait ça, ah d'accord, attends, je vais retourner derrière finalement, parce que c'est beaucoup plus, c'est mieux hein, d'être derrière. Au moins je suis un peu planquée, les gens ils me voient pas. Et ouais, c'est très complémentaire. Il faut pratiquer un peu tous les instruments. Je pense que c'est important. C'est important de changer de place.
Alors la pause musicale à venir est l'œuvre de Fiona Apple. Quelle place elle tient pour toi, l'américaine ?
Fiona Apple, c'est j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Je sais qu'elle a une histoire personnelle un peu complexe. Mais finalement, c'est pas sur ça que je me suis arrêtée. Fast As You Can, c'est vraiment un morceau que j'ai poncé, mais je l'ai écouté beaucoup, beaucoup. Je sais pas, il y a un truc d'urgence, mais je pense que c'est lié à son histoire, évidemment, mais un truc d'urgence et d'intelligence profonde dans son expression artistique et dans ses interviews. Elle est incroyable. Elle est vraiment... Elle en a rien à foutre. Elle est d'une intelligence extraordinaire, d'une finesse. Fiona Apple, c'est un personnage et elle a disparu un peu des radars. Je ne sais pas si elle fait toujours de la musique aujourd'hui, mais la batterie sur ce morceau, elle est incroyable, les percus et tout. Et j'aime bien, ouais, je crois qu'il y a un truc un peu volcanique, un peu d'urgence, un peu de folie que j'ai du mal à retrouver aujourd'hui dans la musique. J'ai l'impression que tout est un peu lissé, qu'il faut... Il y a évidemment des groupes un peu... où on retrouve ça, mais cette espèce de folie, mais pas la folie au sens hystérie et tout ça, qu'on a souvent, mis ça comme adjectif pour les femmes. Donc c'est pas du tout cette folie-là. Pour moi, c'est une folie créatrice. Et un peu, quelque part, de genre, je m'en fous, je m'en tape de ce que les gens pensent, je m'en tape de... Juste, je fais de la musique comme je l'entends, et je dis ce que je pense en interview, et aller un peu vous faire foutre. Et ça, je trouve que ça se perd un tout petit peu, et c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens dans sa musique, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et ouais, j'adore Fiona Apple, c'est vraiment un personnage extraordinaire.
Alors on écoute Fast As You Can.
I let the beast in too soon. I don't know how to live without my hand on his throat. I fight him always and still. Oh darling, it's so sweet. You think you know how crazy I am. You say you don't spook easy, you won't go, but I know, and I pray that you will. Fast as you can, baby, run, free yourself up as fast as you can. Faithful man. So if you catch me trying to find my way into your heart from under your skin. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me out, free yourself fast as you can. Sometimes
Fiona Apple avec le titre Fast As You Can. Alors les stéréotypes de genre, on la vit dur, hein. Je profite de Fiona Apple qui est une figure féminine de la scène pop. Ça bouleverse la représentation, une nana derrière les fûts, une fonction dans la musique largement dominée par le genre masculin.
Oui, je pense que ça bouleverse encore, même si clairement aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui sont derrière les fûts qu'on voit, mais c'est aussi grâce aux réseaux sociaux, hein, mine de rien, parce que ça permet quand même une grande visibilité aujourd'hui. Mais je pense que tout bouleverse à partir du moment où les femmes prennent une voix ou prennent une place qu'elles n'ont pas l'habitude de prendre. On le voit aujourd'hui très fort avec certaines accusations de certaines personnes. On voit que ça bouleverse. On voit que quand les femmes, elles prennent un peu la parole, quand elles sont à des places vraiment où elles ne devraient pas être, voilà, ça n'a aucun sens, ça bouscule. Et les gens sont là, bon, attends, pourquoi ? Mais pourquoi une femme ? Ah oui, vous êtes sûr ? Vous êtes sûr de ça ? Oui, oui, on est sûr, en fait. On est complètement sûr. Et je pense qu'il faut bousculer. Il faut, en fait. Juste, il faut prendre cette place, il faut être là. Et à un moment, ce sera juste normal. Et ça l'est de plus en plus, quand même. Ça, c'est cool. On fait de moins en moins de réflexion. Ah, c'est d'une lame à la batterie. On le fait de moins en moins, la réflexion. Mais parce qu'on en voit aussi de plus en plus. Et j'ai fait une interview d'une batteuse qui s'appelle Martina Barakowska. Et elle a dit en anglais « More there is, more there will be ». Donc c'est vraiment ça, c'est plus il y a de femmes présentes, plus il y en aura. Et c'est tout, point barre en fait, on passe à autre chose quoi.
« Bot Song » de Gary Jules, c'est le cinquième morceau que tu as choisi pour nous ce soir. Qu'est-ce que tu aimerais nous en dire ?
Gary Jules, c'est vraiment un album, pareil, parce que je crois que c'est un des albums que j'ai le plus écouté dans ma vie et que j'emmènerai sur une île déserte. Je ne vais pas prononcer le titre de l'album parce qu'il est très long, que je ne m'en rappelle pas et qu'il est imprononçable. Et j'ai vu d'ailleurs que Gary Jules, là, il refait un peu des tournées aux États-Unis, c'est un Américain. Et d'ailleurs, il a une batteuse. Et je vois ses stories et je me dis... Ah, j'aimerais trop jouer avec lui. J'aimerais trop que ce soit moi. Parce que j'adore cet album. J'adore. J'ai l'impression aussi que c'est un peu un album. Il s'est passé un truc sur cet album. Parce qu'il y a d'autres albums que je trouve un peu moins bien, même en termes d'enregistrement, en termes de son et tout. Et j'ai l'impression que là, il s'est passé quelque chose. Et il y a cette reprise qui est très connue de Tears for Fears, je crois, de. All around me are familiar faces. Je sais plus comment elle s'appelle cette chanson. J'ai perdu tous les titres. Et celle-là, elle est assez connue. Vous avez vu cette imitation de Garage Mad World. Ça y est, tu vois, j'ai quand même les titres. Mad World, elle a cartonné parce qu'elle était dans la BO d'un film. Mais c'est pour ça que j'ai pas choisi cette chanson, que j'en ai choisi une autre. Parce que j'aime beaucoup cette autre chanson et que Mad World, on l'a beaucoup entendu. Et puis c'est une reprise, alors que là, c'est une compo originale de Gary Jules. Donc je vous invite à l'écouter, il est très fort. Thank you.
see him out on the water waves, rolling on the foam. Only memories for a future, on the ocean for a home. Amelia's a name that she calls herself these days. Birds, birds is all we heard before she flew away. And the more I've been thinking, the more I know I'm living alone.
Vous êtes dans l'émission Tour de Piste sur la radio d'Evreux Principe Actif et vous venez d'entendre Boat Song de Gary Jules. Mon invité ce soir, c'est Soigny Elzingre, batteuse au sein du groupe Junior. Alors, c'est Junior avec un E. Gary Jules, qu'on vient d'écouter, s'exprime de manière assez simple. T'es une adepte du lassisement, c'est-à-dire faire beaucoup avec peu.
Oui, oui, oui. Je pense que c'est pareil. C'est une histoire aussi un peu de contrainte parfois quand on te dit il faut que tu fasses une super recette avec deux ingrédients. Bah, tu vas un peu réfléchir pour faire une super recette avec un brocoli et de la coriandre, tu vois. Là, ça va pas être facile. Mais moi, j'aime bien cet exercice, tu vois, vraiment. Mais c'est aussi parce que je suis une enfant de la pop, que j'aime les choses, j'aime les refrains, j'aime les choses un peu simples en apparence. Je suis pas très jazz fusion, quoi, tu vois. C'est pas ma passion. Peut-être que c'est, je pense que voilà, c'est lié à tout ce que j'ai écouté aussi quand j'étais plus jeune. Et je peux même te faire la transition avec le morceau d'après, si tu veux, parce que le morceau de Nick Cave, typiquement Nick Cave, il y a trois accords, quoi. Into My Arms, je sais plus. Enfin, vraiment, il y a trois accords et demi. Et c'est en plus vraiment des accords un peu bateaux. Et pour moi, c'est une des plus belles chansons de la Terre qui me bouleverse, quoi, tu vois. Donc, réussir à bouleverser des gens avec un Do majeur, par exemple, bah, bon courage, en fait. Vas-y, allez-y, faites-le. Je pense que c'est un exercice très difficile et j'invite tout le monde à essayer.
Existence of angels,
looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms.
La magnifique ballade Into My Arms de l'Australien Nick Cave, c'est un des choix de Swanee Elzing qui me fait le plaisir d'être mon invité. On ouvre les portes d'un autre monde quand on s'assoit derrière un instrument.
Oui, mais je pense que c'est ça dans toutes les formes d'art, et c'est bien de le rappeler aujourd'hui, surtout à quelques mois des élections présidentielles. Et justement, pour replacer un peu les choses dans un contexte plus large toujours, je pense que l'art, ça a toujours existé. Et en fait, à un moment, les hommes préhistoriques, ils faisaient des statuettes. Pourquoi ? Pourquoi ils faisaient ça ? Pourquoi ils peignaient sur des murs ? Pourquoi ils peignaient des peintures rupestres ? Et il y a plein de réponses. Mais l'art, c'est vraiment quelque chose... Il ne faut pas oublier que c'est essentiel dans une vie, en fait, et qu'on ne peut pas vivre. Les gens, on leur enlève le cinéma, le théâtre, la musique, les livres. Mais tout le monde se fait chier. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et puis, on n'a pas l'imaginaire... Je sais pas, c'est des choses qu'on perd un peu avec les réseaux sociaux, parce que c'est quand même, il faut le rappeler aussi, le principe d'un réseau social, c'est d'attirer les gens sur le réseau et de les empêcher de partir de ce réseau. Et en fait, tout ça, c'est du temps de cerveau qu'on n'utilise pas pour faire autre chose, pour penser à autre chose. Et l'art, vraiment, c'est du temps de cerveau utilisé pour des choses, les choses les plus utiles de la Terre, en fait. Et vraiment... Si vous voulez qu'il y ait encore des intermittents, mais intermittents, c'est pas des gens qui prennent, qui c'est, on n'est pas, c'est pas vos, les impôts des gens qui payent les intermittents. L'intermittent, c'est un système qui s'auto-nourrit. Et si vous voulez qu'il y ait encore du théâtre, du cinéma, des choses qui font rêver, de la musique. Et en fait, il faut voter pour des gens qui soutiennent ça. Et il y a certains... je pense que c'est important. Hein, la politique, ça fait partie de la vie. Et il y a des gens qui soutiennent la culture. Il y a des gens qui ne la soutiennent pas. Et c'est important que nous, en tant que citoyens, on prenne position. Et que si on veut encore aller voir des concerts et écouter de la musique, et ben, il faut voter judicieusement, notamment au présidentiel. C'est hyper important.
Est-ce qu'il faut s'ennuyer pour être créatif ?
Oui, clairement. Oui. Ben c'est pareil. En fait, si on passe son temps sur TikTok et sur Instagram, je réfléchis pas à des trucs. Et en fait, quand on est le nez en l'air, on est dans un train ou en bagnole, alors, pas quand on conduit, on a le nez en l'air, on regarde les nuages. Enfin, j'ai passé ma vie à regarder les nuages et à imaginer des trucs. Et en fait, quand on est sur Instagram, on n'a pas ça, on n'a pas ce truc de l'esprit qui vagabonde, de penser à des gens, de penser à ce qu'on va faire, d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies. Et l'ennui, donc c'est essentiel. Mais pareil, je pense que nous, je vais dire mon âge, j'ai 40 ans, et j'ai passé du temps à m'ennuyer, et j'ai passé du temps à réfléchir à des trucs. Et je pense que... Je crois que c'est prouvé d'ailleurs hein, que l'ennui, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'être créatif. Je crois que c'est un peu prouvé par la science, mais j'ai aucune source.
Après Nick Cave, on va changer d'ambiance pour la suite de la programmation avec le titre If I Only Have Eyes for You des Flamingos. Ouais.
Je pense que c'est le morceau le plus beau de la Terre. Voilà, tout simplement. Et pour les gens qui sont nés à peu près comme moi, au même moment. Vous l'avez peut-être entendu dans un épisode de Buffy contre les vampires. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Buffy contre les vampires, parce qu'il y a... Et toutes les films des années un peu, et les séries des années 90-2000, parce qu'il y a souvent une super BO. Et je pense que les slow des années 60, c'est vraiment la musique la plus belle de la Terre. Et c'est aussi un morceau qui nous a rapprochés avec Junior, parce que je sais qu'Anna, elle adore aussi ce morceau. Et ouais, donc regardez cet épisode de Buffy contre les vampires, je sais plus lequel c'est, mais et il est génial en plus cet épisode. Et ce morceau, c'est moi ce morceau, il me donne envie de danser sous une boule à facettes, de danser un slow pour l'éternité.
My love must be a kind of blind love. I can't see anyone but you. Dum-dum-dum. 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 Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. I only am eyes for you. The moon may be but I can't see a thing in the sky. I only have eyes for you. I don't know if we're maybe millions of people come up to go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for
The Flamingos avec le titre
If I Only Have Eyes For You.
Pour cette émission qui reçoit Sonny Elzing, le titre qu'on vient d'écouter date de 1953, alors les époques ne sont pas imperméables, hein. Utiliser l'ancien pour faire du neuf a toujours existé. Il y a un amour du savoir-faire à l'ancienne chez toi, ou en tout cas des sonorités vintage que tu partages notamment avec Junior.
Oui, oui. Je pense que c'est important d'avoir de garder ses savoir-faire. C'est pas pour rien que ça existe, et il faut que ça dure encore un peu. Et les gens, on sait tous moins faire de choses avec nos mains, je pense vraiment. Et ce serait bien que ça revienne un petit peu. Et là, je peux parler vite fait du coup du deuxième livre sur lequel je suis en train de travailler, parce que c'est vraiment là-dessus, le savoir-faire français, parce que c'est sur la marque de batterie Asba, qui fête ses 100 ans en 2027. Et le but, là, aujourd'hui, quatre personnes qui bossent chez Asba à Lyon, c'est de vraiment refaire des batteries de A à Z en France. Ce qui est unique, parce que finalement, il y a toujours des pièces qui sont faites souvent en Asie. Et voilà, eux, ils veulent vraiment, ils ont cette volonté-là de tout refaire en France, et plutôt dans un rayon assez proche, finalement, de Lyon, à faire travailler les acteurs locaux. Moi, je trouve ça assez important, et c'est bien de le remarquer aujourd'hui.
Alors, on va écouter le titre Heartbreaker de Pat Benatar. Je t'écoute sur ce choix.
Pat Benatar, c'est en fait ma mère. Mes parents ont fait de la. Je recommence ma phrase. Mon père a fait de la radio libre quand il était jeune, en 1981, quand voilà, c'était le début des radios libres. Et ma mère avait une émission de radio qui s'appelait Rock au féminin. Et on a encore le générique de Rock au féminin, c'est génial. Et elle ne passait en fait que des morceaux de rockeuses, quoi. Donc Joan Jett et tout ça, Pat Benatar. Et donc j'aime beaucoup ce morceau. J'en ai fait une cover avec un ami, avec Robin, mon ami guitariste, et avec Amélie Leroux à la batterie. Moi, je fais basse chant. Et ouais, je suis en fait juste hyper fan de ce morceau, de l'énergie de ce morceau. Le pont, je le trouve assez incroyable, espèce de flottement étrange. Et ouais, Pat Benatar, c'est une figure, quoi, du rock des années 80, 60, 70, 80, qui, je crois, joue toujours aujourd'hui. C'est beau.
C'était Patricia Giraldo alias Pat Benatar avec le titre Heartbreaker. La New-Yorkaise a eu un immense succès commercial. On se trompera rarement si on prend du plaisir, peut-on lire dans ton livre Batteuse. Est-ce qu'il y a un risque que le plaisir soit altéré quand on joue de manière professionnelle ?
Oui, parce que être musicien, musicienne professionnelle, en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas du tout faire que de la musique. C'est passer énormément de temps sur la route, être loin de chez soi. loin de si, voilà, si on a des femmes, des enfants, des maris à la maison. C'est vivre 24 heures sur 24 avec des gens. Et c'est pas, on le sait bien que c'est pas évident de vivre 24 heures sur 24 avec des gens, du petit déjeuner à la petite tisane du soir, quand c'est une tisane. Et c'est aussi beaucoup de gestion personnelle, de gérer son corps, gérer son sommeil, la nourriture, sa forme physique, sa forme mentale, gérer aussi son emploi du temps. Parce que mine de rien, quand on n'a pas un patron et qu'on n'a pas un endroit où il faut aller à 9h du matin et terminer à 18h le soir, ça pose plein de questions. Notamment, le bureau n'est jamais fermé. Donc le dimanche soir à 22h, je peux envoyer des mails de boulot, je peux répondre à des appels de gens qui veulent bosser avec moi, qui me proposent du travail. Et en fait, c'est 100% de ta vie. Et c'est aussi... j'ai une amie, Amélie Leroux, qui est batteuse, que j'ai interviewée là, il n'y a pas longtemps. Et elle m'a dit cette phrase aussi très juste. Elle m'a dit « On fait de la musique ». Donc, on n'est pas chirurgien du cœur, on n'est pas... ça va, c'est de la musique. Mais c'est 100% de notre vie. C'est tous les jours, du matin au soir. Moi, je pars très peu en vacances, et je sais que j'ai plein de potes musiciens, on est tous pareils, en fait, on ne s'arrête jamais. Et ce n'est pas pour nous plaindre ou quoi que ce soit, c'est juste pour rappeler que c'est quand même une vie qui est particulière et qui n'est pas facile, et que finalement, jouer une heure sur scène... En fait, ça, c'est 1% de la vie de musicien. Et j'ai fini un bouquin il n'y a pas longtemps d'un pianiste accompagnateur qui s'appelle Gérald Moore. Et le livre s'appelle « Faut-il jouer moins fort ?». Donc j'aime beaucoup déjà ce titre, c'est un peu mon titre préféré de livre. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est un peu ses mémoires. Le gars a 50 ans de carrière. Et il a commencé, enfin, il est né fin 19e, je crois, ou tout début 20e siècle. Et en fait, c'est rigolo parce que je me suis aperçue que dans ces mémoires qui sont assez épaisses, finalement, le gars ne parle jamais des concerts. Il parle jamais de comment s'est passé le concert. En fait, c'est très anecdotique, finalement, le concert. Et pareil, je suis en train de lire la biographie de la batteuse de Hall, donc le groupe de Courtney Love. En fait, quand elle parle de ses concerts, elle passe très vite. Elle parle pas du tout du concert. C'est oui, et puis on a joué là, et puis après on a joué là, et on a joué là. Et en fait, son bouquin concerne ses rapports avec les autres musiciens, avec ses luttes intérieures et tout ça. Donc en fait, finalement, un concert, c'est très anecdotique dans la vie d'un musicien, ce qui est un peu étrange finalement, parce qu'on fait ça pour ça quand même.
Est-ce que jouer de la musique te rend plus libre ?
Oui. Elle me rend plus libre, mais en même temps, c'est une liberté un peu choisie et un peu... travailler et un peu... Mais je crois qu'effectivement, c'est un peu philosophique parce que je pense qu'il va falloir que j'en parle à mon psy bientôt parce que je pense que j'ai un truc avec la liberté. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, en fait, d'être libre. Et je pense qu'on l'est plus qu'on ne le croit. Et je sais que ça, c'est difficile. Et souvent, on me dit que non, qu'on n'est pas libre, machin. Mais j'ai envie de croire qu'on l'est. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la vie. Mais ça se travaille. Et c'est difficile de l'être. C'est difficile. Il faut faire un peu de concessions. Il faut faire des sacrifices peut-être aussi. Je sais pas. Mais c'est une question... c'est une question un peu... qui mériterait, elle aussi, une émission à part entière. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être libre et c'est important pour moi.
On se quitte comme promis en musique avec Mind Forever de...
Lord Huron.
On se retrouve le 2 septembre à 20h sur Principe Actif. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Merci à Patrick Frémaux de m'avoir amené sur le chemin de Soigny Elzincre pour cette émission. Un grand merci, Soigny, d'avoir été mon invité.
Merci beaucoup à toi pour cet échange qui était super.
Très bien.
Merci pour le pain au chocolat.